3 mai 68, la fermeture de la Sorbonne. Le 3 mai 1968, le recteur décide de la fermeture de la Sorbonne. Cette date marque le début d'un mois de mai parisien, dans une année charnière pour le mouvement ouvrier. Ces événements sont cependant loin d'être isolés et s'inscrivent dans un contexte international de lutte, à la fois dans le bloc occidental, mais aussi à l'Est. C'est aussi une période de multiplication des courants d'extrême-gauche et libertaires. Alors, au-delà du côté folklorique, qu'en ont fait aujourd'hui les actuels détenteurs du pouvoir, est-ce que tu peux revenir sur cette période, pourquoi cette année-là, ses origines internationales et les apports et conséquences de mai 68 ?
Oui, alors, je crois qu'il faut dire d'abord quelque chose de carré et massif, c'est que, comme le récit est fait par ceux qui ont la parole, souvent, ça met l'accent, et finalement, tu as choisi toi-même la date du 3 mai, et pas celle du 17 mai, qui aurait pu tout aussi bien, c'est parce que le 17 mai, c'est le début de la grève générale. Alors évidemment, un événement est lié à l'autre, donc c'est légitime de parler du 3 mai, mais dans le récit a posteriori de 68, il a été largement porté par des anciens étudiants. Enfin, on entend plus, disons, Cohn-Bendit ou d'autres, y compris nous, sur 68, que le livre de Georges Segui sur le mai des prolétaires, par exemple. Bon, il a peut-être été lu dans la CGT, mais c'est pas ce qui passe du point de vue média, etc. Or, ça, c'est le point, moi, qui m'importe le plus à rectifier aujourd'hui. C'est comment se construit, comme s'est construite une mythologie de la Révolution russe, une mythologie de 68. Mais au fil des anniversaires, on a vu se construire des récits de 68. Alors, il y en a un qui était finalement porté par l'arrivée au pouvoir de Mitterrand et des socialistes des années 80, qui n'ont voulu retenir. Henri Weber est un des fabricants de ce récit-là. Mai 68 comme départ d'une révolution culturelle, ou comme on l'a dit plus tard, c'est-à-dire aujourd'hui, d'une révolution sociétale plus que sociale. C'était la modernisation des mœurs, c'était un ajournement culturel, etc., etc., mais pas du tout, mais qui relativise la dimension grève générale. Or, s'il n'y avait eu que le mouvement étudiant en 68, ça serait intéressant, mais on en parlerait comme on parle du mouvement des Provos à Amsterdam en 67 ou des étudiants de Berkeley dans les années 60, ou du mouvement du SDS, des étudiants allemands de Berlin et de l'Université critique de Berlin. Si 68 est une date symbole dans le monde, et pas seulement le mai français, je crois d'abord parce qu'il s'est agi de la grève générale la plus longue et la plus massive de l'histoire. Alors après, les interprétations vont, est-ce que c'était la dernière des grèves héroïques du 19e et 20e siècle? Est-ce que c'était la préfiguration des mouvements sociaux du 21e siècle? Probablement un peu des deux. Hein, c'est un moment charnière où il y a de l'ancien, et puis quand des footballeurs se mettent en autogestion, il y a quelque chose de nouveau. Par ailleurs, bon, c'est loin derrière, parce qu'aujourd'hui, ils sont loin d'être en autogestion dans les clubs performants. Le dernier qui a revendiqué l'autogestion des footballeurs, c'était Socrates. Il disait, qu'est-ce que vous pensez de votre entraîneur, grand joueur brésilien, membre du Parti des Travailleurs à l'époque. C'est mon entraîneur, j'ai le rapport avec lui que j'ai avec un patron. C'est un exploiteur, je suis un exploité. Bien payé, mais enfin quand même. Bon, alors, donc, je crois que le problème, c'est, d'un côté, la force symbolique 68, c'est la grève générale, la dernière de cette dimension-là, et la plus importante, y compris pour la France, dans laquelle s'expérimentent, y compris, des formes relativement nouvelles de démocratie, de contestation, etc. Et en même temps, 68 est devenu, bon, mais ça, le résumé, effectivement, est devenu un événement mondial parce qu'il était en écho ou en résonance avec une série d'événements cumulés dans la même année. Le printemps de Prague en Tchécoslovaquie jusqu'à l'intervention soviétique en août, l'offensive du Tet au Vietnam en février, qui a bien failli aboutir, et puis, même moins spectaculaire, mais les Jeux olympiques de Mexico avec les points levés de Smith et je ne me rappelle plus quel était le second, les coureurs de 400 mètres, et puis le massacre de Tlatelolco au Mexique, c'est-à-dire la répression et plusieurs centaines de morts sur la place des Trois Cultures à la veille des Jeux Olympiques, et des mouvements étudiants importants, y compris au Pakistan, et puis d'autres, bon, et un petit peu en Pologne. Donc, en fait, 68 est devenu le symbole de tout ça, c'est-à-dire d'un contexte particulier, mais qui se reflétait déjà dans le cours du mouvement. Si on prend avant le 3 mai, puisque les choses s'enchaînent, le mouvement qui est apparu, à tort ou à raison, comme le détonateur, c'est-à-dire le mouvement sur le campus de Nanterre, et notamment la journée du 22 mars, on a fait à ce moment-là, juste avant les vacances de Pâques, une journée portes ouvertes, dans laquelle, bon, d'abord, si on compare avec aujourd'hui, il ne faut pas exagérer, hein, il y avait peut-être 400, 500 étudiants, c'était pas mal pour l'époque, mais c'était quand même une petite minorité. Et les commissions étaient sur les réformes universitaires, sur les luttes anti-impérialistes, c'est-à-dire le Vietnam principalement, et les luttes antibureaucratiques, principalement la Tchéco et la Pologne. Et le mouvement lui-même se définissait justement, à différence d'un syndicat étudiant, comme un mouvement politico-syndical, il a été éphémère, mais on voit bien l'état d'esprit, anticapitaliste, antibureaucratique et anti-impérialiste. Bon, c'est ça qui était en germe à un moment où il semblait que ces différentes facettes de résistance à l'oppression et à l'exploitation s'articulaient, se combinaient les unes aux autres et pouvaient être liées. Par ailleurs, il faut ajouter aussi que a joué un rôle dans la genèse, au moins de la première phase du mouvement étudiant, la tentative d'assassinat de Rudi Dutschke, qui était la figure du mouvement étudiant allemand de Berlin à ce moment-là, et qui était d'autant plus touché, d'autant plus directement au cœur, une petite minorité militante en France, hein, mais notamment justement, oui, les anards à Nanterre du groupe de Dutheil et Cohn-Bendit, ou nous à la JCR à l'époque, c'est que on percevait Dutschke un peu comme notre symétrique, là aussi, comme c'était notre histoire, et puis on l'avait rencontré puisqu'on avait été manifesté en janvier, fin janvier 68 à Berlin, la grande manifestation européenne sur le Vietnam. Donc c'était à peu près la même culture, et tous les gens de cette époque sortaient de ce creuset-là, Tariq Ali en Angleterre, etc. Voilà, donc il y avait ce mouvement d'identification. Alors maintenant, il faut voir une vraie question tout de même. Peu importe aujourd'hui, 40 ans ou presque après, on ne va pas discuter sur... et on n'a pas l'instrument de mesure pour dire à quel point c'était une situation pré-révolutionnaire, révolutionnaire ou pas, etc. C'est important de mettre l'accent sur ce qui aurait pu être fait pour aller plus loin. Ça, oui, de montrer que comme dans toute situation, il y a eu des moments où on pouvait faire autre chose, où il y a eu le moment où le mouvement s'est trouvé à des carrefours ou à des croisements de route, probablement à la veille, pendant le départ de De Gaulle à Baden-Baden et la réunion à Charletti, probablement à Charletti où il y avait le meeting Mendès-France, etc., où ils ont essayé de mettre sur orbite Mendès-France. Probablement, il y a eu d'autres moments, au moment du rejet de la première mouture des accords de Grenelle présentée par Ségui en Assemblée générale à Renault, quand il s'est fait siffler. Bon, il y a eu plusieurs moments où l'affaire pouvait rebondir. Donc nous, je crois que c'était à juste titre notre rôle que d'insister sur ce qui était possible de faire différemment pour aller plus loin. Après, est-ce que pour autant la révolution sociale était à l'ordre du jour ? A posteriori, on a des éléments de réflexion tout de même qui sont que par rapport à l'ampleur d'un tel mouvement, il s'est fini par un compromis relativement peu coûteux pour la bourgeoisie. Les acquis de 68, ils ne sont pas nuls en termes de hausse de salaire, etc., ou de droits syndicaux dans l'entreprise, mais ils ont, loin s'en faut, pas la portée symbolique et mémorielle qu'ont eu les conquêtes du Front populaire avec les congés payés ou la libération avec la sécurité sociale. Pour un rapport de force qui pourtant semblait écrasant, en période de croissance, et en période où il y avait en France moins de 200 000 chômeurs, c'est-à-dire ce qu'on appelait à l'époque un chômage de friction, c'est-à-dire d'adaptation des qualifications au marché de l'emploi, mais pas un chômage structurel de longue durée comme aujourd'hui. Donc, une situation de sans chômage, le rapport de force du salariat est évidemment considérable. Donc, les résultats sont faibles. Et le deuxième problème, moi, qui m'amène à me poser des questions sur les limites de 68, justement sur les limites d'un mouvement très fort, mais posé ou porté au terme d'une phase de croissance, de relative prospérité, ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas de pauvres, évidemment, etc. Mais c'est que les effets, finalement, de différenciation dans le mouvement ouvrier ont été relativement faibles. Il y a eu l'apparition d'une extrême gauche. Bon, c'était nouveau. Peut-être que quand on était exclu, nous, du PC en 66, en 68, au début de 68, on devait être 200, 300 maximum. Les Mao, un peu plus. Mais bon, alors évidemment, 68 a permis que ces courants-là, qui auraient pu disparaître par usure, par découragement très vite, ça a été pour nous la confirmation. Du fait qu'on n'était pas complètement des zombies et que dans nos polémiques avec le PC, parce qu'à l'époque, la question était laquelle ? C'est est-ce que la révolution est encore concevable dans des pays développés ? C'était ça, quand même, le débat. La prospérité relative des 30 glorieuses fait que les révolutions ne sont plus à l'ordre du jour, point, et qu'aujourd'hui, il faut gérer le compromis social raisonnablement. Et bon, nous, non, on est toujours révolutionnaires. C'était un acte de foi ou un acte de raison, les deux. 68, vous voyez, grandeur nature, qu'on ne rêve pas, il y a quand même, et puis derrière 68, il y a le mérampant italien, il y a l'effet de contagion en Europe, etc. Donc ça, c'était important, mais en même temps, donc, a survécu une gauche radicale qui s'est arrachée ou libérée de l'emprise des appareils traditionnels, syndicaux et politiques, mais il y a eu moins d'effets en profondeur immédiat, en tout cas, après, c'est autre chose, que même en 47, au moment des grèves Renault, dirigées en partie par Lutte ouvrière à l'époque, ou même en 36, avec l'apparition du pivertisme, d'une gauche socialiste, etc., etc. L'effet a été très limité. Il y en a eu un, qui a été l'effondrement de la social-démocratie corrompue dans la guerre d'Algérie, ou compromise dans la guerre d'Algérie, mais le PC est sorti de là, les élections présidentielles 69, avec Duclos à 22%. Et un parti socialiste à 5%, avec Defferre et Mendès comme ticket. Bon, alors, si c'était un mouvement aussi mûr d'un point de vue révolutionnaire, il pouvait être battu ou canalisé par des bureaucrates, mais il y aurait dû avoir des différenciations plus marquées dans le mouvement ouvrier. Je crois que la limite de ce qui en est sorti indique peut-être a posteriori une limite du mouvement lui-même. Alors, en revanche, il y a eu des effets syndicaux, notamment par un renforcement de la CFDT, et un renforcement d'une CFDT qui n'était pas la CFDT de Chérec ou de Nicole Nota, hein, mais quelqu'un comme Fredo Krumnov, dans la branche textile, etc. Mais il y avait une gauche réelle dans la CFDT à ce moment-là, peut-être pas révolutionnaire, mais en tout cas qui tirait de 68 un discours radical sur l'autogestion. Bon, ça oui, mais disons, ça fait partie des limites. Alors aujourd'hui, on a les deux discours, celui que j'ai dit, c'est-à-dire réduire 68 rétrospectivement à un grand monôme étudiant de modernisation culturelle. Ça a été un peu le discours des 68ards recyclés dans la social-démocratie. Il y a autre chose, il y a les discours de Finkielkraut et consorts, qui est là, qui est carrément la faute à 68, hein, ou de Luc Ferry, etc. La faute à 68, c'est le début de la décomposition, du relâchement des mœurs, de la perte du goût du travail. Une espèce de libéralisation libertaire des mœurs qui est en même temps une désagrégation sociale. Ça, c'est aujourd'hui, ça devient même peut-être dominant par rapport au discours précédent sur le retour à l'ordre, tordre le cou à tout ce qui a pu rester ou être hérité de ça. Bon, ça fait pas, c'est le fonds de commerce de Sarkozy ou d'autres, entre autres, aujourd'hui. Bon, par rapport à ça, moi, les commémorations, et d'ailleurs, ça se comprend psychologiquement, plus l'âge augmente, comme dit... les 10 ans de 68, une interview de 68. Les 20 ans, en 88. En 98, les 30 ans, maintenant 40 ans. Bon, ça devient éprouvant. Mais en même temps, je crois qu'il y a quand même un petit enjeu derrière. C'est justement quand même, il faut combattre ces récits dominants, aujourd'hui devenus dominants, en fait, de 68 et de ces enjeux en France et internationalement.